dans cette série de podcasts inédits est tiré de la première biographie du maestro intitulée « Ennio Morricone ou le poison d'une œuvre » parue aux éditions Marie B et signée Philippe Grégoire, nous proposons une série de focus par périodes successives sur la vie et l'œuvre de Morricone. Dans cet épisode, nous nous intéressons à la période allant de 1949, année où Morricone achève son cours de haute composition à l'Académie Sainte-Cécile, jusqu'en 1964, année où il signe un tube intitulé « Ogni Volta », interprété par le chanteur Paul Anka. En effet, Morricone s'adonna à une activité lucrative, celle des arrangements musicaux pour le compte de tiers. Encore élève à Sainte-Cécile, il ne souhaitait surtout pas que son maître, le grand Goffredo Petrazzi, fût informé de sa vie professionnelle déjà intense. En effet, en parallèle à ses études, il s'adonnait à des sessions d'arrangement le jour et la nuit, il se produisait avec des orchestres de jazz pour gagner un peu d'argent et aider sa famille. Au sortir de la guerre, les temps demeuraient difficiles sur le plan matériel. Malgré ce contexte, son illustre professeur n'aurait pas apprécié que son élève préféré se dispersât ainsi de manière si peu raisonnable à ses yeux. J'étais sûr qu'il jugerait cela comme une perte de temps et une altération de mon processus d'apprentissage, déclarera-t-il des années plus tard. Fin 1949, Ennio Morricone acheva son cours de haute composition avec Petrazzi, ce qui présenta le grand mérite de lui dégager du temps au profit de ses autres activités. Dans l'ouvrage d'entretien qu'il donna à Alessandro De Rosa, Morricone fit le point sur cette période charnière de sa vie. « Mais une fois mes études terminées, à la fin de mon cursus de composition, je me suis retrouvé à l'année zéro. Que devais-je décider ?» Le sort décida pour lui. Par le plus grand des hasards, Carlo Savina, compositeur et chef d'orchestre, sous contrat avec la RAI, s'occupait d'une émission de variété et de dramatique jouée en direct par des comédiens à la radio, radiodiffusée donc deux fois par semaine depuis les studios de la Via Asiago. La télévision n'avait pas encore réalisé ses premières transmissions. En fait, le contrebassiste de son orchestre, Giovanni Tommazzini, demanda à Mario si son fils Ennio pouvait intervenir de façon ponctuelle mais régulière sur des arrangements requis pour l'émission. Comme il étudiait la composition dans une école très prestigieuse, il devait être en mesure de s'en sortir. Ainsi commença sa collaboration d'abord ponctuelle avec Savina au tout début des années 50. J'étais très jeune, mais j'ai tout de suite éprouvé une immense gratitude à l'égard de ce professionnel qui m'a donné ma première opportunité, précisa-t-il. Le travail d'Ennio consistait à s'occuper des arrangements pour l'orchestre B, ainsi nommé, qui accompagnait la prestation de quatre chanteurs en direct à chaque émission. Il s'agissait d'une formation de cordes assez dense qui intégrait aussi bien des instruments classiques, une section rythmique de jazz, un piano, une batterie, un orgue Hammond et un saxophone. Dans le domaine musical, l'arrangement constitue une activité complémentaire à la composition. Il consiste à apporter une plus-value au thème musical, donné bien évidemment par la partition, soit par l'adjonction d'une instrumentation différente, il s'agit alors de l'orchestration, soit par le réaménagement partiel de la mélodie, c'est-à-dire de l'adaptation de l'écriture au style d'un orchestre ou d'un interprète. Ainsi, l'arrangeur, appelé également l'orchestrateur, joint son talent à celui du compositeur. Quand les deux professionnels ne forment pas une seule et même personne, il lui revient de déterminer quels instruments seront utilisés et quelles voix interviendront. Il dispose même de la faculté d'ajouter des instruments ou des voix. En effet, Savina appréciait de plus en plus ce jeune assistant. Il lui proposait souvent de le raccompagner à son domicile après les répétitions. Et dans la voiture qui les ramenait, il ne tarissait pas d'éloges sur le travail à la fois audacieux et inventif qu'Ennio lui fournissait, le même travail qu'il lui avait reproché quelques heures plus tôt. De son côté, Ennio était de plus en plus sollicité. Il multiplia très vite les collaborations, notamment avec Guido Sergioli, ainsi que Sinisso Angelini et Angelo Brigada, dont les orchestres se composaient de saxophones, trombones, trompettes et d'une section rythmique, proche somme toute des formations de jazz et swing, appelées à cette époque « brass band ». Il coopéra surtout avec le grand orchestre Moderna de Pippo Barzisa, avec ses 50 musiciens qui offraient de multiples possibilités symphoniques à l'arrangement. Leur collaboration connut son apogée entre 1952 et 1954 pour l'émission radio diffusée Rozzo e Nero, présentée par une star de la radio, Anagrafe Corrado Mantoni, connu sous le nom de Corrado. Barzisa était reconnu pour son flair à découvrir de nouveaux talents et morceaux dont il faisait des succès. Il considéra tout de suite Morricone comme le meilleur destiné à une grande carrière, le meilleur destiné à une grande carrière étant une citation de Barzisa. Les morceaux à arranger suivaient le même parcours. D'abord écrits par les compositeurs et paroliers, ils étaient présentés à la direction artistique de la radio ou de la production concernée. La radio attribuait le morceau à tel ou tel orchestre qui contactait ensuite Morricone, payait ainsi au travail accompli. Il ne refusait aucun contrat, aucune proposition. Il pouvait ainsi faire jusqu'à 4 arrangements par jour. Morricone représentait l'homme idoine en sa qualité de musicien diplômé par l'une des académies les plus prestigieuses de son pays et, je serais tenté même de rajouter, de son continent. Il ne se contentait pas de livrer simplement le travail pour lequel il était sollicité. J'écrivais des arrangements en prenant pas mal de risques et je ne me privais pas de profiter pleinement de l'orchestre pour mes expérimentations. J'estimais qu'il était là pour ça, déclarera-t-il bien plus tard. Savina, de son côté, très grand professionnel, allait dans le sens de ce qui se faisait à cette époque, roucoulade sentimentale et orchestration ronronnante. Souvent, il s'étonnait de l'audace de son arrangeur quand il ne butait pas sur une partie de son travail. Les répétitions s'organisaient dans un laps de temps très court, laissant peu de place aux incompréhensions. Et pour peu qu'Ennio en fût absent en raison de ses études, Savina l'envoyait chercher sur le champ. Il trépignait en l'attendant. Il éclatait de colère dès son arrivée, en lui adressant même des reproches devant toute l'assistance. « On ne comprend rien. Qu'est-ce que tu as écrit ici? Qu'est-ce que tu as fait ?» Par la suite, Ennio Morricone tenta, autant que son agenda très serré le lui permettait, d'assister aux séances de répétition avec l'orchestre de Savina, une façon également pour lui de profiter du résultat de ses travaux, source d'inspiration nouvelle pour ses interprétations futures. Mes arrangements étaient plus exigeants, aussi bien techniquement que dans leur conception. L'orchestre se retrouvait souvent confronté à des choses qu'il n'avait jamais eu l'occasion de jouer. Je faisais des paris osés en proposant des solutions assez éloignées des standards qui rassuraient les autres arrangeurs. Quoi qu'il en soit, très rapidement, Savina et moi, nous nous sommes partagés le travail. J'avais fini par prendre la place des autres assistants. Ennio Morricone, excluant la routine et le travail répétitif, débutait déjà ses travaux de recherche qu'il appliquait aux arrangements qu'il devait livrer chaque semaine. de l'année 1959 et fort de son expérience radiophonique avec Carlo Savina, Ennio Morricone entama une collaboration avec l'émission de variété Grande Gala, diffusée également à la radio depuis le 14 novembre 1958. Sponsorisé par Palmolive Colgate, son succès populaire s'expliquait par la richesse de sa programmation. Y apparaissaient de nombreuses vedettes comme Miranda Martino, le Quartetto Cetra ou encore Stella Dizzi ou Domenico Modugno. La formation orchestrale, largement à la hauteur, contribuait pour une grande part à la notoriété de l'émission. Cuivres, saxophones, cordes, harpes et orgues à monde, très largement utilisés par Morricone pour les arrangements, ainsi que le chœur dirigé par Franco Pizzano, permettaient toutes les fantaisies, du jazz aux morceaux romantiques ou napolitains, jusqu'au succès plus récent couronné au Festival de San Remo. À la tête de cet orchestre alternèrent Armando Tovagioli, Gorni Caramer et Franco Pizzano, puis Carlo Savina et Piero Umiliani, avec de fameux solistes comme Bill Gilmour ou Franco Chiari. Ennio Morricone débuta ainsi une collaboration régulière avec Miranda Martino, qui s'étendit de 1959 à 1966, à la fois actrice, chanteuse à succès des années 60 en Italie et sous contrat avec RCA, la Radio Corporation of America. Il s'agissait d'arrangements de chansons napolitaines que Morricone revisitait en les modernisant. Il fit de même avec de vieux succès du répertoire de variétés italiennes. Les instruments utilisés reposaient sur les cordes des chœurs, cuivres, tambourins, claviers électroniques ou non, guitare, flûte, triangle, etc. Leur collaboration permit à de nombreux morceaux de trouver à la fois leur caractère et le succès, comme Votre Cenote en 1961, la compilation Napoli de 1963, Meglio Stazzera en 1963, une version du thème d'Henri Mancini pour le film La Panthère Rose avec David Niven et Claudia Cardinale, ou encore le Canzoni di Siempre en 1964, un morceau au rythme rapide écrit pour quatre pianos, puis en Napoli 2 en 1965. Ennio Morricone, fort de ses succès avec Miranda Martino, en vint à travailler avec d'autres artistes renommés de cette époque comme Gianni Morandi, Eduardo Vianello ou encore Gino Paoli. Il finalisa les arrangements de leurs albums respectifs pour la plupart des 45 tours produits toujours par la RCA qui s'arrachèrent dans le commerce. Morricone collabora par ailleurs avec un auteur, compositeur, interprète, Domenico Modugno. Certaines de ses chansons restaient empreintes d'une certaine forme de spiritualité. Se définissant lui-même comme un homme de foi, Morricone n'eut aucune difficulté à les retravailler, notamment en leur insufflant une connotation religieuse, comme ce morceau intitulé « Apocalypse » à l'orchestration intense, criarde et lugubre à la fois, ainsi que « Buon Natale a tutti il mondo » où les instruments jouent d'une manière plus apaisée. En 1958, le français Georges Moustaki écrivit la chanson intitulée « Milord » pour la chanteuse Édith Piaf. En 1960, Isabella Fedili interpréta cette chanson en italien, revue et arrangée par Morricone. Cependant, la collaboration avec la maison de disques RCA s'effectuait au coup par coup sans donner à Morricone la moindre visibilité à moyen terme sur son volume de travail et donc sur ses revenus potentiels. Il se rappela au bon souvenir d'une connaissance, Vincenzo Micozzi, le directeur artistique de la RCA en personne depuis 1956. Il lui parla sans détour. Il voudrait faire des arrangements de façon plus régulière pour la maison du disque. Il mit en avant sa collaboration, déjà très satisfaisante, avec Miranda Martino et les autres artistes. Micozzi fut convaincu tout de suite. de la valeur et du potentiel de cette collaboration, il lui promit d'intensifier le rapport professionnel et la RCA lui proposa un contrat exclusif que Morricone accepta, en lui allouant des chanteurs à suivre en collaboration avec son ami de Sainte-Cécile, Bruno Nicolai. Pour les mêmes raisons, la RCA engagea également Luis Enriquez Bacalov en dispatchant leurs divers travaux à effectuer entre les deux recrues. De vastes et très modernes studios d'enregistrement furent construits via Tiburtina, située dans le nord-est de la capitale italienne. Jusqu'au début des années 60, la RCA italienne se concentrait avant tout sur la musique produite outre-Atlantique qu'elle se contentait de distribuer en Italie. Peu à peu, elle s'intéressa aux vedettes locales afin de les produire avant de les commercialiser. Il s'agissait de ratisser large, de la chanson napolitaine tout juste défraîchie au balbutiement du rock jusqu'au potentiel tube de saison. La RCA voulait prendre l'essentiel du marché italien de la variété et exprimer à elle seule la bande-son de l'après-guerre de la botte italienne. La RCA incarnait à elle seule l'essor de l'industrie discographique italienne grâce à l'influence et à l'intermédiation de Micozzi. Les commandes se multiplièrent. Le travail d'Ennio Morricone semblait fort apprécié. Il maîtrisait des langages musicaux très variés. Et la RCA le plaça face à un instrumentarium dont il perçut immédiatement le potentiel, la batterie, la basse, la guitare électrique, et plus tard le synthétiseur, le fameux SynCat, mis au point par l'ingénieur italien Paolo Ketoff, ami de Morricone, et que les Américains ont copié avant d'en revendiquer la paternité. Il savait à la fois jouer et composer. Il faisait montre d'un excellent niveau d'écoute. Il comprenait très vite ce qu'on attendait de lui. Il livrait son travail toujours dans les délais impartis. Il acquit dans ce contexte une rapidité d'exécution et surtout une efficacité mélodique. Il allait maintenant devenir un orfèvre en la matière, en offrant à l'Italie une bande-son qui n'avait plus rien envié à ses rivales anglo-saxonnes. Ainsi, jusqu'en 1966, Morricone collabora de façon régulière avec la RCA. Il apporta son concours à de multiples arrangements dont une part importante allait constituer de vrais succès commerciaux. Il s'avère impossible de les répertorier dans leur ensemble tant ils sont nombreux. Certains, pour ne pas dire la plupart, se sont perdus et les lister risquerait d'aboutir à un inventaire à la Prévert. Et parmi les plus mémorables, nous ne retiendrons que quelques-uns. Notamment un des arrangements les plus emblématiques sur lequel Ennio Morricone travailla dès 1960. Il s'agit de la chanson intitulée « Il barattolo tican tincan » chantée par Gianni Messia. Il imagina le chanteur poussant une boîte de conserve avec ses pieds et ainsi introduisit ce son très réel à l'intérieur de l'arrangement. Le succès commercial fut au rendez-vous, ce qui améliora les finances de la RCA qui, selon certains témoignages, semblait très mal en point en cette période. Ennio Morricone rit du fait que le bruit de boîte de conserve ait à ce point rempli les caisses de cette maison de disques. Et de retour. Cet album, ainsi intitulé, fut enregistré à Rome en 1962 au studio RCA, mettant en vedette des morceaux axés sur le bop tels que Pentapause et Well You Needn't. Le Chet Baker Sextet se composait de musiciens de jazz européens émergents, dont le saxophoniste belge Bobby Jaspar, le guitariste belge René Thomas, le pianiste italien Amedeo Tomazzi, le contrebassiste belge Benoît Kersin et le batteur suisse Daniel Humer. L'album contient une composition originale, Ballata in forma di blues, une ballade à la blues des Amedeo Tomazzi. Ennio Morricone a arrangé les chansons et dirigé l'orchestre à base de cordes, corps et percussions. Chet Baker en personne jouait de la trompette et assurait le chant sur presque tous les morceaux. En 1964, Morricone arrangea un morceau qui allait devenir un véritable tube de l'époque, Ogni Volta, interprété par le chanteur Paul Anka. Certains dirigeants de la RCA critiquaient Morricone pour le peu de cas qu'il faisait de la section rythmique. Avec ce morceau, il leur montra qu'il prenait note de leurs remarques. Il produisit un rythme très soutenu et endiablé qui allait beaucoup plaire au public. Le morceau fut présenté au Festival de San Remo en 1964. Il n'emporta pas le premier prix, mais le pressage du 45 tours atteignit pour la première fois en Italie le 1,5 million d'exemplaires et d'après la biographie de Paul Anka, plus de 3 millions dans le monde entier.
Che torno, non vorrei più partire, pagare tutto l'oro del mondo, se potessi restarne qui.
Et oui, je sais, c'est malheureux de couper un morceau comme celui-là. Il s'agissait d'Ogni Volta, interprété par Paul Anka et arrangé par Ennio Morricone. Il était précédé par Well You Needn't de Chet Baker, également arrangé par Ennio Morricone. Les différentes citations proviennent pour l'essentiel de deux livres. Ennio Morricone, La musique de ma vie, entretien avec Alessandro De Rosa aux éditions Séguier, paru en 2018, et Life Note, paru en 2016 chez Musica et Oltre. Le volet numéro 4 portera sur les années 1964 et 65, intitulé « Début de notoriété ». Vous imaginez qu'il s'agit là d'une période charnière pour le maestro. Et je vous invite à écouter ce podcast qui comporte pas mal de révélations. Et enfin, un site internet que je dois vous signaler, il s'agit de morricone-biographie.fr, donc je répète, morricone-le-6, hein, biographie.fr, où vous retrouverez ces podcasts ainsi que les prochains, avec des extraits des prochains podcasts, des extraits également du livre Ennio Morricone, Le poison d'une œuvre, donc signé Philippe Grégoire et paru aux éditions Marie B, ainsi que des playlists extrêmement bien faites qui vous permettront de retrouver tous les morceaux cités. morricone-biographie.fr. À très bientôt.